France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Un patrimoine radiophonique.
Écrivain, poète, critique littéraire et traducteur, suisse de langue française, Philippe Jacotet est un des poètes vivants parmi les plus inventifs et prolifiques. Il est aussi le plus lu et le plus étudié. Son œuvre de traducteur, Homère, Platon, Hölderlin, Rilke, Thomas Mann, Ungaretti, Gongora, Robert Musil, est presque aussi impressionnante que son œuvre poétique. S'il fréquentait dans sa jeunesse parisienne les cercles littéraires et surtout celui de la NRF avec Jean Paulhan, Marcel Arlan, Francis Ponge ou Jean Tardieu, s'il devint l'ami des poètes et des écrivains de sa génération, comme Yves Bonnefoy, André Duboucher, Pierre Léris, André Dautel ou encore Henri Thomas, il se retira en 1953 dans le Midi de la France afin de fuir tout ce qui aurait pu freiner son écriture et pour coïncider avec ses propres temporalités parce que il y a, écrit-il, effectivement des instants et ce sont peut-être ceux-là qui fomentent le poème où on a l'impression d'être sorti du temps. L'émission Poésie sur parole d'André Velter et Jean-Baptiste Parra que nous allons entendre date de 2001.
Ayant rayé le titre devant le dieu à gueule de chien noir, beau titre, ai-je pensé quand il m'est venu dans la nuit. Belle et noble image, mais cette nuit je ne suis pas dans un musée. Le noir devant moi ne s'orne d'aucun or et si j'affronte un chien, ce ne sera qu'un chien de ce monde, prêt à mordre. Il n'y a pas non plus de barque funéraire à quai. Pas de ciel au-dessus, pas de vieux sphinx. Pour assurer l'équilibre, il y a seulement des murs de toutes parts comme n'en ont que les tombes. J'entends bien la rumeur des sages qui dissertent sans fin dans de hautes salles, mais je ne peux pas plus y pénétrer qu'un âne dans un temple. C'est à cause des caves sous les ruines où je n'ai pas été contraint de m'enterrer pour survivre avec les rats que je parle aujourd'hui ainsi comme si ce n'était plus moi qui parlais, mais quiconque va finir par s'effondrer dans la boue. Il y a eu tout de même un certain jour qui flottait dans l'église avec l'encens, cette musique à nommer divine, divine, parce qu'elle vous devançait avec ses clés à la ceinture. Mais qui l'entend encore si tout devient pareillement étroit et noir, et celle-là si lointaine et débile ou peu s'en fout. À cause des amis coincés dans la nasse au fond de l'eau, là où le jour n'atteint plus. Devant le dieu à gueule de chien noir, autant rayé, parvenu ici les beaux titres, autant laisser peut-être inachevé le livre, ou l'interrompre au milieu de la page écrite seulement de larmes désarmées. Là où le plus beau livre n'est qu'un peu durable abri, après qu'on a lâché ses cannes, soutenu à grand peine par des femmes, par des sœurs habillées de patience, invisible tarde à les relayer en ton bras, cette fois tout bon. Si la lumière qu'on tenait encore dans sa main casse, les pieds nus ne pourront que s'écorcher sur les tessons, si même la lumière casse, si les murs se resserrent, si le chien noir qui n'est pas un dieu aboie, s'il vous mord. Arrivé là, il faudrait inventer une sœur ou un ange, comme personne jamais n'a pu en inventer. Il faudrait, pour levier à soulever pareille dalle, une lumière dont on a perdu le nom pour la héler.
L'oiseau du vent tournoie, toi ma douceur, ma blessure, mon bien. De vieilles tours de lumière se noient, et la tendresse entr'ouvre ses chemins. La terre est maintenant notre patrie. Nous avançons entre l'herbe et les eaux, de ce lavoir où nos baisers scintillent, à cet espace où foudroiera la faux. Où sommes-nous, perdus dans le cœur de la paix? Ici, plus rien ne parle, que sous notre peau, sous l'écorce et la boue, avec sa force de taureau, le sang fuyant qui nous en mêle et nous secoue comme ces cloches mûres sur les champs. Comme je suis un étranger dans notre vie, je ne parle qu'à toi, avec d'étranges mots, parce que tu seras peut-être ma patrie, mon printemps, nid de paille et de pluie aux rameaux, ma ruche d'eau qui tremble à la pointe du jour, ma naissante douceur dans la nuit. Mais c'est l'heure que les corps heureux s'enfouissent dans leur amour avec des cris de joie, et une fille pleure dans la cour froide. Et toi, tu n'es pas dans la ville? Tu ne marches pas à la rencontre des nuits. C'est l'heure où, seul avec ces paroles faciles, je me souviens d'une bouche réelle. Ô fruit mûr, source des chemins dorés, jardin de lierre, je ne parle qu'à toi, mon absente, ma terre. Comme un homme qui se plairait dans la tristesse plutôt que de changer de ville ou bien d'errer, je m'entête à fouiller ces décombres, ces caisses, ces gravats sous lesquels le corps est enterré que formèrent nos corps quand ils étaient serrés sur un lit de passage avec des cris de liesse. C'est dans ce temps que notre ciel s'est éclairé d'un astre sombre et que j'eus bientôt mis en pièces. Ah, lâcher pour de bon ferraille, plâtre et planche, non! Comme un chien, je flaire un parfum répandu et gratte si profond qu'enfin j'aurai mon dû de tomber à mon tour en poussière bien blanche et de n'être plus rien qu'ossement vermoulu pour avoir trop cherché ce que j'avais perdu.
Daucus ou carotte sauvage. Il faut rebaptiser ces fleurs, les détacher des réseaux de la science pour les réinsérer dans le réseau du monde où mes yeux les ont vues. Dans l'ombre des hauts chênes, en belle ordonnance, dans leur nef aéré où, à peine en a-t-on franchi le seuil, on devient plus tranquille, comme dans une grande maison. On voit alors éparses, un peu plus haut que l'herbe sombre et vague, ces taches blanches qui bougent un peu, qui ont l'air de flotter comme des flocons d'écume. En même temps, vaguement, parce que ces choses vues ainsi sont vagues, on pense à des fantômes qui apparaîtraient là dans cette pénombre, favorable aux formes incertaines et improbables de la vie, c'est-à-dire à des présences, presque des personnes, pas entièrement réelles, comme surgies d'ailleurs, revenues de très loin ou remontées d'obscures profondeurs, plutôt pâles, fragiles à coup sûr, privées des belles couleurs de la vie, sans que cette impression d'ailleurs fugitive et un peu fade elle-même effraie le moins du monde. Ce sont des ombelles éparses dans l'ombre, des espèces de constellations plus familières, moins éclatantes, moins froides et surtout moins figées que celles qui pourront sembler leur répondre au-dessus des arbres une fois que le beau voile du jour aura été tiré. Me voici parvenu au seuil d'une espèce de ciel d'herbe où flotterait à portée de la main fragile, plutôt que des astres aigus, de petites galaxies flottantes, légères, blanches, vraiment comme du lait, ou de la laine de brebis telle qu'il en reste accrochée aux ajoncs dans les îles bretonnes. C'est aussi un peu comme quand on surprend les premiers pépiments avant l'aube, c'est-à-dire dans une autre sorte d'ombre, d'oiseaux qu'on ne voit pas, à la fois distincts et reliés. Mais ce murmure ici des ombelles annonce-t-il aussi quelque chose comme un nouveau jour, une autre éclosion? Il ne semble pas. C'est un langage encore plus étranger. Vague lueur dans l'ombre flottant au-dessus de la tombe commune. Surtout ne pas plier cela dans l'herbier des pages, mais le laisser déplier dans l'espace, laisser cela flotter au bout de ces tiges presque invisibles qui en empêchent pour un peu de temps la dispersion, les laisser telles qu'elles sont, libres et liées, ces ombelles blanches, dans l'ombre aérée des chênes, liées pour un temps et qu'on dirait heureuses de l'être, mais prêtes à l'envol. Comme ne peuvent le rêver leurs sœurs célestes clouées au bois de la nuit. Ainsi, comme des lampes à tous les étages de la maison. Quelques ombelles flottant dans l'ombre des grands arbres verts qu'on est peut-être ici pour faire dire quelque chose à l'oreille la plus rétive avec le rêve téméraire un peu fou de remettre ainsi dans le réseau du monde le cœur aveuglé, le cœur sourd, de ramener à la maison du monde l'âme blessée, perdue, ou qui se croyait-elle à jamais. On imagine une toile d'araignée aux dimensions du monde infini qui brillerait dans l'ombre et dans le centre serait cette fois un tendre soleil inconnu. Comme le martin-pêcheur prend feu. Comme le martin-pêcheur prend feu, comme la libellule s'enflamme. Dans le poème de Hopkins, cet oiseau qui prend feu flamboie, comme le ferait un petit vitrail orange et bleu dans une église, comme toute chose de ce monde-là, comme l'homme lui-même, comme le Christ. Il affirme son être avec ardeur dans un monde ordonné. Comme cette flamme, cette confiance, ces certitudes conduisent alors l'esprit loin et haut, et comme la parole ainsi entendue dans le froid vous emporte à son tour, vous enflamme ne serait-ce que le temps de la lecture, et de loin. Mais l'oiseau entrevu le même, qui a flambé lui aussi orange et bleu au bord de la rivière cachée derrière les saules et les roseaux couleur d'ivoire, pour presque aussitôt disparaître dans leur abri, pour moi, ce n'était rien qu'on pût rapprocher du Christ. Ce n'était pas un morceau de vitrail dans une cathédrale où j'aurais pu prier, même pas un ange qui m'aurait apporté un message. Ce n'était qu'un oiseau, farouche, comme ils le sont presque tous, mais plus coloré, plus chatoyant que ceux que l'on voit ici d'ordinaire. Et c'était seulement la seconde fois que je le surprenais ainsi dans son domaine entre roseaux et saules. Et le petit garçon qui nous accompagnait dans cette promenade de novembre, un peu longue à son gré, ne l'avait même pas vu, si vif que fût son clair regard. Était-ce comme si j'avais rouvert une fois de plus mes mille et une nuits d'enfant, à la page où la mère d'Aladin était figurée apportant au souverain une coupe pleine de fruits qui sont en réalité des pierres précieuses, ou comme si cet oiseau était venu jusqu'à ses bords d'une rivière familière, échappé d'une volière d'Orient, portant dans son plumage un bleu métallique, un orange radieux tel qu'en ont arboré en des âges depuis longtemps révolus des rois, des princesses et des prêtres, et tel qu'on ne les oublie plus quand on les a vus un jour scintiller au mur des églises de Ravenne. Oiseau qui semble libre de tout lien, joyau, orange et bleu, presque aussi rare que ces reliques dont on entr'ouvre la chasse qu'à l'occasion de certaines fêtes. Lui, toutefois, nul n'a jamais été tenu de le vénérer. D'ailleurs, on ne peut l'enfermer nulle part sous peine qu'il perde son éclat. Jour de novembre, faste, où un martin-pêcheur a pris feu dans les saules. Peut-être n'est-il pas plus nécessaire de vivre deux fois que de le revoir une fois disparu. Oiseau ni à chasser ni à piéger qui s'éteint dans la cage des mots. Une seule fois suffirait pour quoi ? Pour dire quoi ? Un seul éclair plumeux pour vous laisser entendre que la mort n'est pas la mort. Chasseur ne vise pas, cet oiseau n'est pas un gibier. Regard ne vise pas, recueille seulement l'éclair des plumes entre roseaux et saules. Alliant dans ses plumes soleil et sommeil, tu n'aimes pas les joyaux plus que cela, je m'en souviens, mais un joyau ailé, un joyau avec un cœur, un éclair farouche et peut-être moqueur comme certains regards autrefois. Le martin-pêcheur flambe dans les saules. Il a flambé. Et si quelque chose comme cela suffisait pour sortir de la tombe, avant même d'y avoir été couché. Thank you.
Les nouvelles du soir. À l'heure où la lumière enfouit son visage dans notre cou, on crie les nouvelles du soir. On nous écorche. L'air est doux. Gens de passage dans cette ville, on pourra juste un peu s'asseoir au bord du fleuve où bouge un arbre à peine vert après avoir mangé en hâte. Aurais-je même le temps de faire ce voyage avant l'hiver, de t'embrasser avant de partir? Si tu m'aimes, retiens-moi. Le temps de reprendre souffle, au moins, juste pour ce printemps, qu'on nous laisse, tranquille, longer la tremblante paix du fleuve, très loin, jusqu'où s'allument les fabriques immobiles. Mais pas moyen. Il ne faut pas que l'étranger qui marche se retourne, ou il serait changé en statue, on ne peut qu'avancer. Et les villes qui sont encore debout brûleront. Une chance que j'ai au moins visité Rome l'an passé, que nous nous soyons vite aimés avant l'absence, regardés encore une fois, vite embrassés, avant qu'on crie le monde à notre dernier monde, ou ce soir, au dernier beau soir qui nous confonde. Tu partiras. Déjà, ton corps est moins réel que le courant qui l'use, et ses fumées au ciel ont plus de racines que nous. C'est inutile de nous forcer. Regarde l'eau, comme elle file par la faille entre nos deux ombres. C'est la faim qui nous passe le goût de jouer au plus fin. Intérieur. Il y a longtemps que je cherche à vivre ici, dans cette chambre que je fais semblant d'aimer. La table, les objets sans souci, la fenêtre ouvrant au bout de chaque nuit d'autres verdures, et le cœur du merle bat dans le lierre sombre. Partout des lueurs achèvent l'ombre vieillie. J'accepte, moi aussi, de croire qu'il fait doux, que je suis chez moi, que la journée sera bonne. Il y a juste au pied du lit cette araignée, à cause du jardin. Je ne l'ai pas assez piétinée, on dirait qu'elle travaille encore au piège qui attend mon fragile fantôme. Agrigente, 1er janvier. Un peu plus haut que cette place aux rares cibles, nous cherchons l'escalier d'où la mer est visible, ou du moins le serait si le temps était clair. Nous avons voyagé pour la douceur de l'air, pour l'oubli de la mort, pour la toison dorée. Malgré le chemin fait, nous restons à l'orée. Et ce n'est pas ces mots hâtifs qu'il nous faudrait, ni cet oubli, lui-même oublié tôt après. Il commence à pleuvoir, on a changé d'année. Tu vois bien qu'au regret, notre âme est condamnée. Il faut, même en Sicile, accepter sur nos mains les 1000 épines de la pluie. Jusqu'à demain. La voix. Qui chante là, quand toute voix se tait? Qui chante avec cette voix sourde et pure un si beau chant? Serait-ce hors de la ville, à Robinson, dans un jardin couvert de neige? Ou est-ce là, tout près, quelqu'un qui ne se doutait pas qu'on l'écoutât? Ne soyons pas impatients de le savoir, puisque le jour n'est pas autrement précédé par l'invisible oiseau. Mais faisons seulement silence. une voix monte, et comme un vent de mars aux bois vieillis porte leur force, elle nous vient, sans larmes, souriant plutôt devant la mort. Qui chantait là, quand notre lampe s'est éteinte? Nul ne le sait, mais seul peut entendre le cœur qui ne cherche la possession ni la victoire. Dans un tourbillon de neige, ils chevauchent encore dans les espaces glacés, les quelques cavaliers que la mort n'a pas pu lasser. Ils allument des feux dans la neige, de loin en loin. À chaque coup de vent, il en flambe au moins un de moins. Ils sont incroyablement petits, sombres, pressés, devant l'immense, blanc et lent malheur à terrasser. Certes, ils n'amassent plus dans leur grenier ni or ni foin, mais y cachent l'espoir, fourbi avec le plus grand soin. Ils courent les chemins par le pesant monstre effacé. Peut-être se font-ils si petits pour le mieux chasser? Finalement, c'est bien toujours avec le même poing qu'on se défend contre le souffle de l'immonde groin. J'ai longtemps désiré l'aurore, mais je ne soutiens pas la vue des plaies. Quand grandirai-je enfin? J'ai vu la chose nacrée, fallait-il fermer les yeux? Si je me suis égaré, conduisez-moi maintenant, heure pleine de poussière. Peut-être en mêlant peu à peu la peine avec la lumière, avancerai-je d'un pas? À l'école ignorée, apprendre le chemin qui passe par le plus long et le pire. Qu'est-ce donc le chant? Rien qu'une sorte de regard. S'il pouvait habiter encore la maison, à la manière d'un oiseau qui nicherait même en la cendre et qui vole à travers les larmes. S'il pouvait au moins nous garder jusqu'à ce que l'on nous confonde avec les bêtes aveugles. Le soir venu, rassembler toutes choses dans l'enclos, traire, nourrir, nettoyer l'auge pour les astres. Mettre de l'ordre dans le proche gagne dans l'étendue, comme le bruit d'une cloche autour de soi. À Henri Purcell. Écoute, comment se peut-il que notre voix troublée se mêle ainsi aux étoiles? Il lui a fait gravir le ciel sur des degrés de verre par la grâce juvénile de son art. Il nous a fait entendre le passage des brebis qui se pressent dans la poussière de l'été céleste et dont nous n'avons jamais bu le lait. Il les a rassemblés dans la bergerie nocturne où de la paille brille entre les pierres. La barrière sonore est refermée. Fraîcheur de ces paisibles herbes, à jamais. Ne croyez pas qu'il touche un instrument de cyprès et d'ivoire comme il semble. Ce qu'il tient dans les mains est cette lyre à laquelle Vega sert de clé bleue. À sa clarté, nous ne faisons plus d'ombre. songe à ce que serait pour ton ouïe, toi qui es à l'écoute de la nuit, une très lente neige de cristal. On imagine une comète qui reviendrait après des siècles du royaume des morts et cette nuit traverserait le nôtre en y semant les mêmes graines. Nul doute, cette fois les voyageurs ont passé la dernière porte. Ils voient le signe scintiller au-dessous d'eux. Pendant que je t'écoute, le reflet d'une bougie tremble dans le miroir comme une flamme tressée à de l'eau. Cette voix aussi, n'est-elle pas l'écho d'une autre, plus réelle? Va-t-il l'entendre, celui qui se débat entre les mains toujours trop lentes du bourreau? L'entendrai-je, moi? Si jamais il parle au-dessus de nous, entre les arbres constellés de leur avril. Tu es assis devant le métier haut dressé de cette harpe. Même invisible, je t'ai reconnu, tisserand des ruisseaux surnaturels.
À la lumière d'hiver. Parler est facile et tracer des mots sur la page, en règle générale, est risquer peu de choses. Un ouvrage de dentelière, calfeutré, paisible, on a pu même demander à la bougie une clarté plus douce, plus trompeuse. Tous les mots sont écrits de la même encre. Fleurs et peur, par exemple, sont presque pareils. Et j'aurais beau répéter « sans » du haut en bas de la page, elle n'en sera pas tachée, ni moi blessée. Aussi arrive-t-il qu'on prenne ce jeu en horreur, qu'on ne comprenne plus ce qu'on a voulu faire en y jouant, au lieu de se risquer dehors et de faire meilleur usage de ses mains. Cela, c'est quand on ne peut plus se dérober à la douleur, qu'elle ressemble à quelqu'un qui approche en déchirant les brumes dont on s'enveloppe, abattant un à un les obstacles, traversant la distance de plus en plus faible, et si près soudain qu'on ne voit plus que son mufle plus large que le ciel. Parler alors semble mensonge, ou pire, lâche insulte à la douleur et gaspillage du peu de temps et de force qui nous reste. Chacun a vu un jour, encore qu'aujourd'hui, on cherche à nous cacher jusqu'à la vue du feu. Ce que devient la feuille de papier près de la flamme, comme elle se rétracte hâtivement, se racornit, s'effrange. Il peut nous arriver cela aussi, ce mouvement de retrait convulsif, toujours trop tard, et néanmoins recommencé pendant des jours, toujours plus faible, effrayé, saccadé, devant bien pire que du feu. Car le feu a encore une splendeur, même s'il ruine, il est rouge, il se laisse comparer au tigre ou à la rose. À la rigueur, on peut prétendre, on peut s'imaginer qu'on le désire, comme une langue ou comme un corps. Autrement dit, c'est matière à poème, depuis toujours. Cela peut embraser la page et d'une flamme soudain plus haute et plus vive, illuminer la chambre jusqu'au lit ou au jardin, sans vous brûler. Comme si, au contraire, on était dans son voisinage plus ardent, comme s'il vous rendait le souffle, comme si l'on était de nouveau un homme jeune devant qui l'avenir n'a pas de fin. C'est autre chose, et pire. Ce qui fait un être se recroqueviller sur lui-même, reculer, tout au fond de la chambre, appeler à l'aide n'importe qui, n'importe comment, c'est ce qui n'a ni forme, ni visage, ni aucun nom. Ce qu'on ne peut apprivoiser dans les images heureuses, ni soumettre aux lois des mots. Ce qui déchire la page, comme cela déchire la peau. Ce qui empêche de parler en autre langue que de bête. Cela, patiemment, plus patiemment, ou avec fureur, mais dis encore. En défi au bourreau, dis cela, essaie, sous les rivières du temps. Espère encore que le dernier cri du fuyard avant de s'abattre soit tel, n'étant pas entendu, étant faible, inutile. Qu'il échappe, au moins lui, sinon sa nuque, à l'espace où la balle de la mort ne dévie jamais, et par une autre oreille que la terre grande ouverte soit recueillie plus haut, non pas plus haut, ailleurs, pas même ailleurs, soit recueillie peut-être plus bas, comme une eau qui s'enfonce dans la poussière du jardin, comme le sang qui se disperse, fourvoyé dans l'inconnu. Dernière chance pour toute victime sans nom, qu'il y ait, non pas au-delà des collines ou des nuages, non pas au-dessus du ciel, ni derrière les beaux yeux clairs, ni cachés dans les seins nus, mais on ne sait comment, mêlé au monde que nous traversons, qu'il y ait, imprégnant ses moindres parcelles, de cela que la voix ne peut nommer, de cela que rien ne mesure, afin qu'encore il soit possible d'aimer la lumière. Ou seulement de la comprendre, ou simplement encore de la voir, elle, comme la terre la recueille, et non pas rien que sa trace de cendre. Un homme qui vieillit est un homme plein d'images, raide comme du fer en travers de sa vie. N'attendez plus qu'il chante avec ses clous dans la gorge. Autrefois, la lumière nourrissait sa bouche. Maintenant, il raisonne et se contraint. Or, on peut raisonner sur la douleur, sur la joie, démontrer, semble-t-il, presque aisément, l'inanité de l'homme. On peut parler, comme je parle à présent dans cette chambre, qui n'est pas encore en ruine par ses lèvres, que ne coupe pas encore le fil de la mort, indéfiniment. Toutefois, on dirait, que cette espèce-là de parole, brève ou prolixe, toujours autoritaire, sombre, comme aveugle, n'atteint plus son objet, aucun objet, tournant sans fin sur elle-même, de plus en plus vide, alors qu'ailleurs, plus loin qu'elle ou simplement à côté, demeure ce qu'elle a longtemps cherché. Les mots devraient-ils donc faire sentir ce qu'ils n'atteignent pas, qui leur échappe, dont ils ne sont pas maîtres, leur envers? De nouveau, je m'égare en eux. De nouveau, ils font écran. Je n'en ai plus le juste usage. Quand, toujours plus loin, se dérobe le reste inconnu, la clé dorée. Et déjà le jour baisse. Le jour de mes yeux. Pensée sous les nuages. Je ne crois pas décidément que nous ferons ce voyage à travers tous ces ciels qui seraient de plus en plus clairs, emportés au défi de toutes les lois de l'ombre. Je nous vois mal en aigles invisibles, à jamais tournoyant autour de cimes invisibles, elles aussi par excès de lumière. À ramasser les tessons du temps, on ne fait pas l'éternité. Le dos se voûte seulement, comme aux glaneuses. On ne voit plus que les labours massifs et les traces de la charrue à travers notre tombe patiente. Il est vrai qu'on aura peu vu le soleil tous ces jours. Espérer sous tant de nuages est moins facile. Le socle des montagnes fume de trop de brouillard. Il faut pourtant que nous n'ayons guère de force pour lâcher prise, faute d'un peu de soleil, et ne pouvoir porter sur les épaules quelques heures un fagot de nuages. Il faut que nous soyons restés bien naïfs pour nous croire sauvés par le bleu du ciel ou châtiés par l'orage et par la nuit. Mais où donc pensiez-vous aller encore avec ces pieds usés? Rien que tourner le coin de la maison ou franchir de nouveau quelle frontière? L'enfant rêve d'aller de l'autre côté des montagnes. Le voyageur le fait parfois et son haleine là-haut devient visible, comme on dit, de l'âme des morts. On se demande quelle image il voit passer dans le miroir des neiges, luire quelle flamme, et s'il trouve une porte entr'ouverte derrière. On imagine que dans ces lointains, cela se peut, une bougie brûlant dans un miroir, une main de femme proche, une embrassure. Mais vous, ici, tel que je vous retrouve, vous n'aurez plus la force de boire dans ces flûtes de cristal. Vous serez sourds aux cloches de ces hautes tours, aveugles à ces phares qui tournent selon le soleil, piètre navigateur pour une aussi étroite passe. On vous voit mieux dans les crevasses des labours, suant une sueur de mort plutôt sombre qu'emporté vers ces derniers signes fiers. Je ne crois pas décidément que nous ferons encore ce voyage, ni que nous échapperons au Merlin sombre, une fois que les ailes du regard ne battront plus. Des passants, on on ne nous reverra pas sur ces routes, pas plus que nous n'avons revu nos morts, ou seulement leur ombre. Leur corps est cendre, cendre leur ombre et leurs souvenirs. La cendre même, un vent sans nom et sans visage la disperse, et ce vent même, quoi l'efface ? Néanmoins, en passant, nous aurons encore entendu ces cris d'oiseaux sous les nuages, dans le silence d'un midi d'octobre vide, ces cris épars, à la fois près et comme très loin. Ils sont rares parce que le froid s'avance tel une ombre derrière la charrue des pluies. Ils mesurent l'espace. Et moi qui passe au-dessous d'eux, il me semble qu'ils ont parlé. Non pas questionné, appelé, mais répondu. Sous les nuages bas d'octobre, et déjà c'est un autre jour, je suis ailleurs, déjà ils disent autre chose ou ils se taisent. Je passe, je m'étonne, et je ne peux en dire plus.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 juin 2001.